fragment d'un discours amoureux.
C'est donc un amoureux qui parle et qui dit.
Agonie.
Angoisse. Le sujet amoureux, au gré de telle ou telle contingence, se sent emporté par la peur d'un danger, d'une blessure, d'un abandon, d'un revirement. Sentiment qu'il exprime sous le nom d'angoisse.
Ce soir, je suis revenu seul à l'hôtel. L'autre a décidé de rentrer plus tard dans la nuit. Les angoisses sont déjà là, comme le poison préparé. La jalousie, l'abandon, l'inquiétude. Elles attendent seulement qu'un peu de temps passe pour pouvoir décemment se déclarer. Je prends un livre et un somnifère, calmement. Le silence de ce grand hôtel est sonore, indifférent, idiot. Ronron lointain des baignoires qui se vident. Les meubles, les lampes sont stupides. Rien d'amical. Ou se réchauffer. J'ai froid, rentrons à Paris. L'angoisse monte. J'en observe la progression, comme Socrate devisant, moi lisant, sentais s'élever le froid de la ciguë. Je l'écoute se nommer, s'enlever, telle une figure inexorable, sur le fond des choses qui sont là. Et si, pour que quelque chose se passe, je faisais un vœu. Aimer l'amour.
Annulation. Bouffée de langage au cours de laquelle le sujet en vient à annuler l'objet aimé sous le volume de l'amour lui-même. Par une perversion proprement amoureuse, c'est l'amour que le sujet aime, non l'objet.
Charlotte est bien fade. C'est le piètre personnage d'une mise en scène forte, tourmentée, flamboyante, montée par le sujet Werther. Par une décision gracieuse de ce sujet, un objet phallos est placé au centre de la scène et là, adoré, encensé, pris à partie, couvert de discours, d'oraisons et peut-être en sous-main d'invectives. On dirait une grosse pigeonne, immobile, tassée dans ses plumes, autour de laquelle tourne un mâle un peu fou. Il suffit que dans un éclair, je vois l'autre sous les espèces d'un objet inerte, comme empaillé, pour que je reporte mon désir de cet objet annulé à mon désir lui-même. C'est mon désir que je désire, et l'être aimé n'est plus que son suppôt. Je m'exalte à la pensée d'une si grande cause, qui laisse loin derrière elle la personne dont j'en ai fait le prétexte. C'est du moins ce que je me dis, heureux de m'élever en rabaissant l'autre. Je sacrifie l'image à l'imaginaire. Et si un jour vient où il me faut bien décider de renoncer à l'autre, le deuil violent qui me saisit alors, c'est le deuil de l'imaginaire lui-même. C'est une structure chérie, et je pleure la perte de l'amour, non de tel ou tel. Je veux y retourner, comme l'a séquestré de Poitiers à son grand fond Malampia. L'attente.
Attente. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé, au gré de menus retards. Rendez-vous, téléphone, lettre, retour.
J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique. Dans Erwartung, attente, une femme attend son amant la nuit, dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse. Tout est solennel, je n'ai pas le sens des proportions. Il y a une scénographie de l'attente. Je l'organise, je la manipule. Je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Cela se joue donc comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous. J'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce et pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, computable. Je regarde ma montre plusieurs fois. Le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors. Il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu. J'essaye de me remémorer le moment où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données. Que faire ? Angoisse de conduite ? Changer de café ? Téléphoner ? Mais si l'autre arrive pendant ses absences, ne me voyant pas, il risque de repartir, etc. L'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, il, elle, aurait bien pu. Il, elle, c'est bien. Ah, si elle, il pouvait être là pour que je puisse lui reprocher de n'être pas là. Dans l'acte 3, j'atteins, j'obtiens l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme mort. Explosion de deuil. Je suis intérieurement livide. Telle est la pièce. Elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en un, l'accueil est calme. S'il arrive en deux, il y a scène. S'il arrive en trois, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement, tel Péléas sortant du souterrain et retrouvant la vie, l'odeur des roses. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente. Elle a ses moments mornes. J'attends et tout l'entour de mon attente est frappé d'irréalité. Dans ce café, je regarde les autres qui entrent, papotent, plaisantent, lisent tranquillement. Eux, ils n'attendent pas. L'être que j'attends n'est pas réel. Tel le sein de la mère pour le nourrisson, je le crée et je le recrée sans cesse à partir de ma capacité d'aimer, à partir du besoin que j'ai de lui. L'autre vient là où je l'attends, là où je l'ai déjà créé. Et s'il ne vient pas, je l'hallucine. L'attente est un délire. Encore le téléphone. À chaque sonnerie, je décroche en hâte. Je crois que c'est l'être aimé qui m'appelle, puisqu'il doit m'appeler. Un effort de plus, et je reconnais sa voix. J'engage le dialogue, quitte à me retourner avec colère contre l'importun qui me réveille de mon délire. Au café, toute personne qui entre, sur la moindre vraisemblance de silhouette, est de la sorte, dans un premier mouvement, reconnue. Et longtemps après que la relation amoureuse s'est apaisée, je garde l'habitude d'halluciner l'être que j'ai aimé. Parfois, je m'angoisse encore d'un téléphone qui tarde, et à chaque importun, je crois reconnaître la voix que j'aimais. Je suis un mutilé qui continue d'avoir mal à sa jambe amputée. La catastrophe.
Catastrophe, crise violente au cours de laquelle le sujet, éprouvant la situation amoureuse comme une impasse définitive, un piège dont il ne pourra jamais sortir, se voit voué à une destruction totale de lui-même.
Deux régimes de désespoir. Le désespoir doux, la résignation active. Je vous aime comme il faut aimer dans le désespoir. Et le désespoir violent. Un jour, à la suite de je ne sais quel incident, je m'enferme dans ma chambre et j'éclate en sanglots. Je suis emporté par une vague puissante, asphyxié de douleur. Tout mon corps se raidit et se révulse. Je vois, dans un éclair coupant et froid, la destruction à laquelle je suis condamné. Aucun rapport avec la déprime insidieuse et somme toute civilisée des amours difficiles. Aucun rapport avec le transissement du sujet abandonné. Je ne flippe pas, même dur. C'est net comme une catastrophe. Je suis un type foutu. Cause, jamais solennelle, nullement par déclaration de rupture. Cela vient sans prévenir, soit par l'effet d'une image insupportable, soit par brusque rejet sexuel. L'infantile, se voir abandonné de la mère, passe brutalement au génital. La catastrophe amoureuse est peut-être proche de ce qu'on a appelé dans le champ psychotique une situation extrême, qui est une situation vécue par le sujet comme devant irrémédiablement le détruire. L'image en est tirée de ce qui s'est passé à Dachau. N'est-il pas indécent de comparer la situation d'un sujet en mal d'amour à celle d'un concentrationnaire de Dachau? L'une des injures les plus inimaginables de l'histoire peut-elle se retrouver dans un incident futile, enfantin, sophistiqué, obscur, advenu à un sujet confortable qui est seulement la proie de son imaginaire? Ces deux situations ont néanmoins ceci de commun. Elles sont, à la lettre, panique. Ce sont des situations sans reste, sans retour. Je me suis projeté dans l'autre avec une telle force que lorsqu'il me manque, je ne puis me rattraper, me récupérer. Je suis perdu à jamais.
Le cœur.
Cœur. Ce mot vaut pour toutes sortes de mouvements et de désirs. Mais ce qui est constant, c'est que le cœur se constitue en objet de don, soit méconnu, soit rejeté.
Le cœur est l'organe du désir. Le cœur se gonfle, défaille, etc., comme le sexe, tel qu'il est retenu, enchanté, dans le champ de l'imaginaire. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que l'autre va faire de mon désir? Voilà l'inquiétude où se rassemblent tous les mouvements du cœur, tous les problèmes du cœur. Werther se plaint du prince de X. Il apprécie mon esprit et mes talents plus que ce cœur, qui cependant est mon unique orgueil. Ah, ce que je sais, tout autre le peut savoir. Mon cœur, je suis seul à l'avoir. Vous m'attendez là où je ne veux pas aller. Vous m'aimez là où je ne suis pas. Ou encore, le monde et moi ne nous intéressons pas à la même chose. Et pour mon malheur, cette chose divisée, c'est moi. Je ne m'intéresse pas, dit Werther, à mon esprit. Vous ne vous intéressez pas à mon cœur. Le cœur, c'est ce que je crois donner. Chaque fois que ce don m'est renvoyé, c'est alors peu de dire, comme Werther, que le cœur est ce qui reste de moi, une fois ôté tout l'esprit qu'on me prête et dont je ne veux pas. Le cœur, c'est ce qui me reste. Et ce cœur qui me reste sur le cœur, c'est le cœur gros. Gros du reflux qui l'a rempli de lui-même. Seul l'amoureux et l'enfant ont le cœur gros. X doit partir pour des semaines, et peut-être au-delà. Il veut, au dernier moment, acheter une montre pour son voyage. La buraliste lui fait des mines. « Voulez-vous la mienne ? Vous deviez être bien jeune quand elle valait ce prix-là, etc. » Elle ne sait pas que j'ai le cœur gros.
Le corps de l'autre.
Corps. Toute pensée, tout émoi, tout intérêt suscité dans le sujet amoureux par le corps aimé.
Son corps était divisé. D'un côté, son corps propre, sa peau, ses yeux, tendre, chaleureux. Et de l'autre, sa voix, brève, retenue, sujette à des accès d'éloignement. Sa voix, qui ne donnait pas ce que son corps donnait. Ou encore, d'un côté, son corps moelleux, tiède, mou juste assez, pelucheux, jouant de la gaucherie, et de l'autre, sa voix. La voix, toujours la voix, sonore, bien formée, mondaine, etc. Parfois, une idée me prend. Je me mets à scruter longuement le corps aimé, tel le narrateur devant le sommeil d'Albertine. Scruter veut dire fouiller. Je fouille le corps de l'autre comme si je voulais voir ce qu'il y a dedans, comme si la cause mécanique de mon désir était dans le corps adverse. Je suis semblable à ces gosses qui démontent un réveil pour savoir ce qu'est le temps. Cette opération se conduit d'une façon froide et étonnée. Je suis calme, attentif, comme si j'étais devant un insecte étrange dont brusquement je n'ai plus peur. Certaines parties du corps sont particulièrement propres à cette observation. Les cils, les ongles, la naissance des cheveux, les objets très partiels. Il est évident que je suis alors en train de fétichiser un mort. La preuve en est que si le corps que je scrute sort de son inertie, s'il se met à faire quelque chose, mon désir change. Si par exemple, je vois l'autre penser, mon désir cesse d'être pervers, il redevient imaginaire. Je retourne à une image, à un tout. De nouveau, j'aime. Je voyais tout de son visage, de son corps, froidement. Ses cils, l'ongle de son orteil, la minceur de ses sourcils, de ses lèvres, les mailles de ses yeux, tel grain de beauté, une façon d'étendre les doigts en fumant. J'étais fasciné, la fascination n'étant en somme que l'extrémité du détachement, par cette sorte de figurine coloriée, faïencée, vitrifiée, où je pouvais lire, sans rien y comprendre, la cause de mon désir. Je suis fou.
Fou. Le sujet amoureux est traversé par l'idée qu'il est ou devient fou.
Je suis fou d'être amoureux. Je ne le suis pas de pouvoir le dire. Je dédouble mon image. Insensé à mes propres yeux, je connais mon délire. Simplement déraisonnable aux yeux d'autrui, à qui je raconte très sagement ma folie. Conscient de cette folie, tenant discours sur elle. Werther rencontre un fou dans la montagne. En plein hiver, il veut cueillir des fleurs pour Charlotte, qu'il a aimée. Cet homme, du temps qu'il était en cabanon, était heureux. Il ne savait plus rien de lui-même. Werther se reconnaît à moitié dans le fou aux fleurs. Fou par passion, comme lui, mais privé de tout accès au bonheur, supposé, de l'inconscience. Souffrant de rater même sa folie. Tout amoureux est fou, pense-t-on. Mais imagine-t-on un fou amoureux ? Nullement. Je n'ai droit qu'à une folie pauvre, incomplète, métaphorique. L'amour me rend comme fou. Mais je ne communique pas avec la surnature. Il n'y a en moi aucun sacré. Ma folie, simple déraison, est plate, voire invisible. Au reste, totalement récupérée par la culture. Elle ne fait pas peur. C'est pourtant dans l'état amoureux que certains sujets raisonnables devinent tout d'un coup que la folie est là, possible, toute proche. Une folie dans laquelle l'amour lui-même sombrerait.
Inconnaissable. Effort du sujet amoureux pour comprendre et définir l'être aimé en soi, au titre de type caractériel, psychologique ou névrotique, indépendamment des données particulières du rapport amoureux.
Je suis pris dans cette contradiction. D'une part, je crois connaître l'autre mieux que quiconque et le lui affirme triomphalement. Moi, je te connais, il n'y a que moi qui te connaisse bien. Et d'autre part, je suis souvent saisi de cette évidence, l'autre est impénétrable, introuvable, intraitable. Je ne puis l'ouvrir, remonter à son origine, défaire l'énigme. D'où vient-il ? Qui est-il ? Je m'épuise, je ne le saurai jamais. »